Ils ont un rêve, révolutionner la musique.
Et moi, la première fois que j'ai entendu le premier proto, j'ai pleuré et je me suis dit, oh, putain, on va tout rafler, quoi.
Un de leurs défis, rencontrer la légende Jay-Z.
Il avait un mail de Jay-Z, d'Oslo, qui lui disait, il faut, et avec une photo du fantôme, il faut absolument que tu rencontres ces gens-là.
Dans cet épisode, tu vas découvrir comment faire croître ton entreprise, te faire un réseau, gérer les licenciements, mais tu vas surtout découvrir un outil bien plus puissant que les tableurs. Nous sommes avec Quentin Sanier, le fondateur de la marque De Vialet. De Vialet, c'est un peu la Rolls du son. Ils ont franchi la barre des 100 millions de chiffres d'affaires en 10 ans, doublé 6 années d'affilée et ont réussi à s'implanter dans les Apple Store du monde entier. Au-delà de ça, Quentin est un homme vraiment humain et vous allez adorer cette interview. Vous écoutez le podcast Business Tribe.
Je disais tout à l'heure que c'était un rêve de gosse que vous aviez de monter une boîte comme ça. Cette idée aussi d'aller conquérir un peu le monde par ce que vous avez créé, moi, ça me donne la niaque juste de lire ça, en tout cas. Comment ça t'est venu De Vialet, en fait? Comment vous avez créé ça?
En fait, j'ai toujours été entrepreneur, en fait. J'ai commencé quand j'étais à Dauphine. C'était le moment où arrivait le Macintosh. Et donc, j'ai commencé à...
Donc, on est en 4...
25.
Ouais.
Donc j'ai vu le produit dans un magasin, un revendeur Apple à l'époque. J'ai essayé le produit, j'ai couru à la banque. Mais c'est marrant, mais je me souviens très très bien. J'ai fait un emprunt étudiant. 15 jours après, j'avais 20 000 francs, qui était à l'époque ce qu'on pouvait.
20 000 euros.
Comment?
C'est comme 20 000 euros aujourd'hui, presque.
Ouais, peut-être un peu moins, mais c'était. Oui, peut-être, je ne sais pas. Et donc, 15 jours après, j'avais mon argent et j'ai acheté un Mac et je ne savais pas trop à quoi ça servait, en fait, honnêtement.
Qu'est-ce qui t'a plu dans le Mac?
Mais en fait, je me suis dit, c'est. Le monde a changé. Je me suis dit, c'est. Voilà, tout est en train de changer, en fait. Et donc, j'ai acheté ça et puis j'ai commencé à m'y intéresser, à faire des choses dessus, puis à en acheter pour d'autres, acheter, revendre, informatiser des petites boîtes, etc.
Du Mac, Apple.
Ouais, ouais. Et puis, un de mes profs m'a repéré, il m'a demandé de développer un logiciel de finance et d'écrire un bouquin de finance avec lui.
Parce que tes compétences à l'époque, c'est quoi en fait?
Rien. Non mais rien. Je pense que ma compétence majeure, c'était que j'avais le sentiment d'être un étudiant. En fait, j'ai détesté l'école et j'avais le sentiment d'être un étudiant très feignant. Alors que je n'arrêtais pas. Quand je regarde ce que je fais maintenant, ce que je faisais à l'époque, c'est fou. Et donc j'ai développé ce logiciel. On a fait ce bouquin de finance. J'ai donné des conférences.
À quel âge? T'as quel âge?
Je sais pas. J'ai 23 ans. Et j'allais, je me souviens de Sofitel de Lyon, qui était le grand devant des experts comptables, à expliquer mon logiciel d'analyse et de prévision financière. Enfin. Ça me paraît assez fou.
Que tu as codé toi-même ou tu avais des équipes?
Non, bon, c'est moi qui développais.
D'accord.
Et mon prof, lui, c'est plutôt lui qui concevait l'aspect financier. Moi, je concevais toute la partie de la méthode de prévision, en fait, la méthode de calcul, enfin, tous les algorithmes, en fait, qu'on allait... donc on a fait ça et j'ai continué, je me suis associé avec quelqu'un, on a monté une boîte de stratégie de communication, c'était au moment de la privatisation de Saint-Gobain, de la Générale des Eaux, de la Générale d'Électricité, de toutes ces boîtes-là. Et j'ai commencé à conseiller ces boîtes-là et en fait moi ce qui me plaisait c'est d'être un jeune consultant. En fait, j'ai découvert que c'est ça qui me plaisait parce qu'à partir du moment où mes clients ont commencé à être plus vieux que moi, j'ai détesté ce métier et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose d'autre. Et donc, j'ai cherché un projet. Il y avait deux domaines qui m'intéressaient. C'était l'agroalimentaire.
OK.
L'alimentation. Et l'autre sujet, c'est la tech. Et la tech dans... Quand on était gosse, c'était l'audio en fait. À cette époque, il n'y avait pas encore.
Pas la télé qui était développée à ce point-là.
Voilà, et puis il n'y avait pas d'ordinateur, pas de smartphone, pas de. Voilà. Donc la tech, au fond, c'était l'audio. Et donc, avec un de mes cousins, on avait un rêve qui était de monter une boîte dans l'audio. Et lui, il revenait, c'était un gars très têtu, entre autres, hein, il a d'autres talents, mais il revenait régulièrement avec des projets, en présentant des trucs et tout. Et ça, en fait, ça ne m'excitait pas vraiment. Et un jour, il est venu. Avec un gars qui avait inventé une nouvelle technologie d'amplification. Voilà. Et moi, la première fois que j'ai entendu le premier proto, j'ai raconté ça plusieurs fois, mais voilà, moi j'ai pleuré et je me suis dit, bon, putain, c'est, on va tout rafler, quoi. Donc c'est, et voilà. Et donc j'ai donc c'était ma volonté de quitter le conseil.
T'as été vraiment touché par le
truc. Et je me suis dit, au fond, les bonnes décisions qu'on prend dans la vie, c'est des décisions dans lesquelles il y a une dimension émotionnelle forte. Mmh. En fait, tout ce qu'on nous raconte, tu vois, c'est il faut prendre des tableaux. En fait, il faut prendre des tableaux de chiffres ou il faut prendre des tableaux à double entrée. Et puis tu vas mettre les critères et tu vas choisir.
Très mental, quoi.
Voilà, et puis très très analytique. Mais au fond, il y a énormément de choses dans une décision que tu es incapable de mettre dans un tableau. En fait, notre intelligence, notre capacité de perception, elle dépasse largement ça.
Tu es ouvert à cette idée d'intuition,
c'est... Oui, mais c'est, je pense que c'est... en fait, notre capacité d'appréhension du monde, elle n'est jamais aussi forte qu'au moment où on est ému, en fait. Moi, il y a un cas extrême, c'est la naissance de mes enfants. Donc, c'est un moment d'émotion absolument incroyable. Et tu as l'impression d'être dans un état de perception. Tu as l'impression d'être capable d'entendre tous les gens qui sont en train de parler dans la ville en même temps, de tout ce qui se passe. Tellement tu es intense, en fait, émotionnellement. Et donc, je crois que dès lors que... t'es dans un état émotionnel extrêmement vif, tu vois, sur la brèche, à ce moment-là, si tu sens que tu veux y aller, c'est certainement une bonne décision, en fait. Mmh. Parce que dès lors que ça provoque chez toi cet fort état émotionnel, l'énergie que tu vas être capable de mettre dans le projet, elle est incommensurablement supérieure à celle qui est le résultat de... je ne sais pas trop ce que je vais faire, mais voilà, j'aurais plutôt penché là-dessus, mais en fait, je vois que dans le tableau, là, il y a 12 et là, il y a 10 en résultat, donc je vais aller là, il y a 12. Enfin, je veux dire, le jour où tu décides de te marier ou de vivre avec quelqu'un ou d'avoir un gosse.
C'est pas un calcul.
Non, mais tu fais pas ça comme ça, quoi. Mmh. Or, les vraies décisions importantes de la vie, c'est ce genre de décision. Donc pourquoi le jour où tu te lances dans un projet ou que tu choisis les études que tu vas faire, etc. Ou plein d'autres choses. Hein. Pourquoi tu ne le fais pas comme ça, quoi?
Tu penses qu'il y a peut-être trop d'entrepreneurs là qui démarrent avec juste en tête de trouver la bonne opportunité plutôt que de trouver le truc qui les fait vibrer au fond, là, qui leur donne des larmes aux yeux en y pensant. Est-ce que tu penses qu'ils pourraient gagner, certains entrepreneurs, à aller chercher un produit, un service, un truc qui les prend au trip, quoi?
Je pense que oui. Après, l'avantage du métier d'entrepreneur, si c'est choix de vie d'entrepreneur, c'est que il y a plein de façons de le faire. Tu vois, c'est-à-dire il y a des gens qui vont, tu peux avoir plein de talents différents, plein de capacités différentes, et trouver en tant qu'entrepreneur une façon de te développer, de te sentir bien et d'être toi-même, en fait. Mmh. En fait, c'est plutôt, je dirais, la vraie question, c'est plutôt ça. C'est comment tu es vraiment toi? Comment tu fais un projet qui est vraiment, qui ressemble à ce que tu es vraiment? Alors, c'est vrai que quand on a 20 ans, ce n'est pas forcément évident.
Et ouais, justement, ce que j'allais te demander, comment on trouve qui on est vraiment et comment on crée un projet ou on trouve un projet qui est vraiment d'accord avec nous? C'est une question...
Non, mais je pense que tu le trouves au moment où tu te rends compte que tu es capable de faire des choses auxquelles tu croyais que tu n'étais pas capable d'affronter, tu vois. On pourrait parler de toi ou d'autres, quoi. Tu affrontes tes peurs, tu affrontes tes limites, les limites que tu perçois, tu affrontes beaucoup de choses, et puis tu te rends compte qu'en fait, tu es capable de faire ça.
Tu peux nous raconter un truc que tu pensais, il y avait une partie de toi qui disait « non, je ne peux pas faire ça » ou « ça te paraissait dur » et tu l'as fait, un truc…
Non, mais d'affronter les gens, tu vois, d'aller vers les gens, des choses comme ça. Il n'y a pas un endroit où je me sens plus mal que dans un cocktail, par exemple. Mais ça, c'est encore le cas. Pour moi, c'est le...
Moi aussi, hein.
Pour moi, c'est vraiment l'horreur absolue, tu vois, d'être là, un verre à la main, et il faut aller vers les gens.
Et alors, comment tu fais?
Et en fait, Ben, en fait, je me force d'une certaine façon, mais en fait, j'ai appris à y trouver du plaisir, à rencontrer des gens nouveaux tous les jours. Tu vois, quand on me sollicite, quand des gens veulent me proposer des choses, quand les gens sont très insistants, qu'ils me proposent une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, etc., je me dis, ben, c'est bien, ils ont vraiment envie, ben, moi, finalement, ça me donne aussi envie, et j'y vais, en fait. Donc, et d'aller voilà, d'aller vers les gens, finalement, comme ça. Les rencontrer, découvrir des gens nouveaux, et les gens sont, enfin, j'aime les gens, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'était pas forcément, je crois que ça a été plutôt un effort pour moi. Mais
Donc, dans un
voilà.
cocktail, par exemple, tu as une partie de toi qui dit non, j'ai pas envie d'y aller, et une autre partie de toi qui dit allez.
Non, là vraiment le cocktail c'est vraiment très dur. Non,
Je
je cherche en fait, moi
t'inviterai à un cocktail la prochaine fois.
je en fait ce que je cherche dans un cocktail c'est le mec comme moi qui n'a non parce que c'est
Qui a pas trop envie de parler, mais
Non,
qui aime les
mais
gens.
avoir une relation comme ça à deux et discuter, ça va quoi. À partir du moment où tu vas dans un cocktail, il faut faire ça, puis passer 3 minutes avec l'un, avec l'autre, etc.
C'est dur.
Pour moi, c'est assez compliqué en fait.
Du coup, ton conseil, imaginons qu'il y a quelqu'un qui nous écoute. Moi, ça me parle beaucoup, hein, ce que tu décris. J'ai beau m'entraîner comme je pouvais à être à plus à l'aise en communication. Parler 3 minutes avec chacun, c'est pas un exercice facile. Tu conseilles quoi du coup à quelqu'un qui se reconnaîtrait dans ce que tu dis? C'est de se dire tant pis, je parle pas à tout le monde, ou quand même de faire les 3 minutes, 3 minutes,
Moi, je dis qu'il faut trouver sa façon de rencontrer les gens. En fait, bah, c'est pas forcément les cocktails. Tu vois, c'est de dire, bah, on va se voir et puis on va prendre un café. On
le
fait,
resto.
on, on, ouais, plutôt. Enfin, il faut toujours se méfier du mec avec qui tu, enfin, la personne avec laquelle tu déjeunes pour la première fois et qui peut être un emmerdeur. Donc, il vaut mieux.
Avec le café,
Non,
c'est
mais le
plus facile à
café, tu vois,
finir.
t'es pas obligé d'aller jusqu'au dessert, quoi. Donc, voilà, plutôt un café, non, mais ou bureau, peu importe. De dire, bah, très bien, on se voit et de rencontrer les gens. Et c'est souvent passionnant, de fait, quoi.
T'as réussi à créer, enfin, vous avez réussi à créer des partenariats avec des personnes comme Jay-Z, tout ça. Comment t'as fait? C'est quoi le. Imaginons, là, hier, j'avais une interview avec un jeune qui a créé sa marque de vêtements. Ça cartonne bien. Et je lui disais, voilà, si tu arrives à faire en sorte que ta marque, des Jay-Z, des Beyoncé, ils arrivent à les porter, ça va. Il a déjà des petites stars françaises, mais ça serait encore autre chose et c'est son rêve d'aller à l'international. Comment on fait quand on se dit qu'on a un produit top et qu'on pourrait créer des partenariats avec des personnes qui ont une influence comme ça mondiale?
Bah comme tu dis, d'abord, il faut être persuadé d'avoir un produit top. Et pour ça, c'est beaucoup de travail en amont. C'est-à-dire, en fait, tu es capable de faire ça à partir du moment où tu as confiance dans ce que tu es en train de créer. Tu as le sentiment de créer quelque chose de très particulier. Sinon, c'est. Enfin, sinon, ou alors il faut être mytho. Tu vois, non, mais c'est vrai. Donc, moi, j'avais le sentiment d'avoir quelque chose d'absolument exceptionnel. Et après, il faut pas tellement faire de compromis, en fait. Tu vois, c'est dire, bah, moi, c'est lui que je vise. Et donc,
Tu avais choisi.
voilà, et jusqu'à ce que je le rencontre.
Et
Et
par exemple,
après, tu vois, ce qui s'est passé pour Jay-Z, c'était assez amusant. On est allé voir Tidal, qui est une plateforme de musique en ligne
qu'il a créé.
Non, qu'il n'a pas créé.
Ah bon?
Non, qu'il a acheté, en fait. Et
D'accord.
on est allé à Oslo voir Tidal pour intégrer enfin, le service de Tidal dans le fantôme. Et à Oslo, on leur a offert un fantôme pour qu'ils puissent travailler avec. Et puis, voilà.
D'ailleurs, juste pour tout le monde, le fantôme, on va dire, c'est l'enceinte la plus grand
Ouais.
public que vous avez créée.
Voilà, exactement. Et donc on a placé un produit comme ça chez Tidal. Quelques semaines plus tard, Roc Nation, Jay-Z a racheté Tidal.
D'accord.
Voilà, première partie. Deuxième partie, je suis à Los Angeles et je suis en train de dire que le fantôme, justement, cette enceinte, arrive sur le marché. Et donc je rencontre, comme je l'ai fait à San Francisco dans la tech, je rencontre les patrons des maisons de disques à Los Angeles. Et grâce au fait que le produit, il est incroyablement démonstratif, incroyablement impressionnant.
D'ailleurs, on peut, juste pour la petite anecdote, on peut aller les voir. Moi, je suis allé faire à la FNAC, il me semble, la FNAC d'ailleurs de rue de la Courcelles. Enfin,
D'Éternes,
non, D'Éternes, je crois qu'on peut le voir.
Par exemple, il y a les boutiques de Vialet aussi dans Paris. Ouais. Donc, le produit est très démonstratif. Donc, en arrivant à Los Angeles, on va voir le patron d'un fonds d'investissement que Loïc Lemaire nous avait indiqué.
Il vit à San Francisco, lui, c'est ça?
Lui, il vit à San Francisco, il connaît beaucoup de gens. Et on arrive, on fait la démo et le mec, il nous donne tout son carnet d'adresses, tous les patrons des maisons de disques. On va les voir un par un. Mais il se marrait même parce qu'il me disait, quand je leur présentais le truc, ah, c'est top et tout, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Je lui dis, des gens à qui on pourrait le présenter, il y a lui qui est le patron de ça, ça y est, on l'a déjà vu, lui qui est patron de ça, on le voit tout à l'heure.
Quand il fait ça, quand le mec est en face de toi, il dit...
Tu as l'impression de faire ton job, quoi, et tu te rends compte que ça marche, quoi, que la conviction fonctionne. Et donc, dans les gens que je vais voir, il y a...
T'as peur d'aller voir ces personnes-là ou pas? C'est un stress ou pas pour toi à ce moment-là?
C'est un stress, une excitation. Tu dois être bon, tu dois être super concentré.
Tu les prépares?
Moi, c'est en mode boxeur en fait.
Vas-y, raconte.
Pour moi, c'est une préparation, c'est une concentration dans laquelle pour des rendez-vous comme ça, je ne me fixe pas d'objectif autre que de séduire. Et en fait, je me dis pas il faut que j'obtienne ça de la personne.
Tu crées la relation.
Il faut que je sois en empathie et que ça, tu vois, que ça, qu'il y ait le moment soit magique. Et après, c'est moi, jamais je n'ai demandé aux gens voilà ce que je voudrais. C'est toujours eux qui me demandent qu'est-ce que tu veux.
Voulais.
Ça a toujours été comme ça. Et donc,
est-ce que avant de le faire, tu écoutes de la musique? Est-ce que tu dis des phrases? Tu parles de boxeurs, parce que les boxeurs, des fois, ils ont tout un rituel avant.
Je me prépare physiquement. Tu vois, si je suis dans ma chambre d'hôtel, je vais m'attacher qu'à des petites choses matérielles, c'est-à-dire préparer ma chemise, mon pantalon, mais rien de spécial, si tu veux. J'ai pas de gris-gris et tout, juste simplement.
Dans le silence ou avec une musique?
Souvent, c'est dans le silence. En fait, souvent, c'est dans le silence. Ça dépend comment. Ça peut démarrer ou ça peut plutôt finir en musique. Tu vois, je vais plutôt démarrer dans le silence, comme ça, prendre une douche, m'habiller, machin, et je suis concentré, apaisé, et j'ai pas de. Tu vois, je révise pas, ou je suis
présent,
simplement
en fait.
Dans l'instant, vivre le moment, quoi. Tu vois, et de vivre ça extrêmement intensément, tu vois. Et donc là, je vais voir Jay Brown, qui est le CEO de Roc Nation. Ouais. Et je lui présente le truc, super excité et tout. Et attention, moment magique, il reçoit un coup de fil de son assistante. Il va sur son ordinateur. Et il avait un mail de Jay-Z d'Oslo, où il était allé voir Roc Nation, il était allé voir Tidal, ouais. Qui lui disait... et avec une photo du fantôme, il faut absolument que tu rencontres ces gens-là. Et ces gens-là, c'était nous, et on était en face de lui.
Ça t'a aidé, ça.
Ouais. Et donc, alors qu'on avait du mal à rencontrer, on n'arrivait pas à le rencontrer en passant par Roc Nation à New York, parce que y a la structure, l'essentiel des équipes est à New York. Finalement, ça s'est passé comme ça. Et donc, il nous a ouvert les portes, donc on l'a rencontré après à New York. D'abord tout seul, après avec sa maman. Enfin, c'est des moments forts, ouais. Et c'est des moments, tu vois, il faut les vivre. Ce que je recherche chez les gens, tu vois, les positions des gens, que ça soit tu vois, quelqu'un de très simple. Tu vois, la femme de ménage ou le patron d'un truc incroyable ou un grand artiste ou je sais pas quoi, au fond, leur humanité, elle est... C'est ça ce qui crée des liens. Et moi, c'est ça que je vais aller chercher. Donc, j'ai pas de... Je suis pas impressionné... Enfin, je... Voilà,
tu
je
vois,
suis
tu
pas...
vois un être humain en face de toi.
Ouais, voilà. Et donc... Et je vais chercher ce qu'il y a de bon chez eux, quoi.
Et justement, comment tu t'y prends pour aller chercher ce qu'il y a de bon chez la personne?
Ben, je pense qu'il faut être généreux. Je pense qu'il faut donner soi-même. Il faut aimer, quoi. Il faut aimer les gens qui sont en face de toi, qui t'accordent du temps. Il faut.
Donc tu te mets dans un état où tu te dis,
ouais.
Voilà, c'est une belle personne, j'ai de la
Ouais,
chance de l'avoir, j'aime
exactement.
cette
Et
personne.
c'est d'abord. Et c'est ce moment-là, il faut que je lui offre un moment qui soit un bon moment. Tu vois.
C'est-à-dire qu'au-delà du business,
Voilà.
on a vécu un beau moment ensemble.
Voilà.
C'est génial ce que
Et
tu dis.
de fait, ça devient du business, quoi. Quand on est rentré chez Apple, donc le rendez-vous avec Angela Ahrendts,
Qui est la directrice des
ouais, qui
magasins.
était, elle est partie là maintenant,
D'accord.
numéro 2 d'Apple, une femme payée 84 millions de dollars par an, enfin, ce qui donne un peu
La
le poids du
position.
personnage. Et moi, j'y suis allé.
Ton anglais, il est bon en fait?
Il a fini par être bon. Enfin, je passais beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup d'interviews en anglais, y compris à la télé, etc. J'ai une belle anecdote d'ailleurs à ce sujet-là.
Tu la racontes juste après, ça m'intéresse.
Ouais. Et donc, moi, j'y suis allé avec l'idée de lui raconter juste pourquoi on avait une relation particulière avec Apple, c'est tout. Et j'ai raconté l'histoire du Macintosh, de ma course jusqu'à la banque, etc. Et je lui ai dit ce qui est vrai. On voulait que Steve Jobs soit actionnaire de Viale. Et puis
Tu lui as montré l'amour que tu avais pour l'entreprise en
Ouais,
fait.
voilà. Et en fait, une demi-heure après, elle m'a dit « Quentin, il faut absolument que vous veniez. » Et elle a passé 1 heure à me vendre Apple, quoi. Et 5 semaines après, on était dans les magasins. Et ça n'arrive jamais, quoi.
C'est fou.
Et donc, et ça a été... Voilà. Et ça... Tu peux faire ça, et des cas comme ça, j'en ai pas mal. Et ça, tu peux faire ça à partir du moment où il se passe quelque chose qui est au-delà de ce qu'on appelle la rationalité, quoi. Tu vois, mais qui n'est pas plus rationnel. Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a de plus réel que nos émotions? Mais c'est chimiquement plus réel qu'un tableau de chiffres. Je veux dire, c'est une réalité physiologique, biologique, bien plus grande que n'importe quoi d'autre. Donc dire la réalité, c'est le tableau de chiffres. Et ton émotion, c'est rien, bah c'est une absurdité, quoi.
Tu t'imagines même pas comment je suis heureux de. Non, non, pour moi, c'est magnifique ce que tu es en train de dire, ça me touche d'ailleurs. Parce que je vois beaucoup de dualité. Je t'ai dit avant, hors caméra, que j'ai deux audiences. J'ai l'audience pro-business et j'ai l'audience plutôt pro-bien-être. Et ce que j'essaie de faire, tu vois, c'est de relier les deux. Parce que je vois plein d'entrepreneurs qui auraient un peu besoin, tu vois, de mettre cette dimension de cœur, d'amour, de relation. Et des personnes qui sont pro-bien-être, qui ont un peu plus besoin de structure et de se dépasser, de passer à l'action. Mais c'est génial, parce qu'on a souvent tendance, en tout cas particulièrement aussi en France, à mettre dans la case business, il ne faut pas mettre le mot amour, et tu l'as employé plusieurs fois, le mot empathie, le mot relation, le mot émotion. Et c'est génial, parce que l'entendre d'une personne qui a créé ce que tu as créé, ça le rend plus crédible qu'une autre personne qui dira, ah, bon, ok, non, mais il ne sait pas de quoi il parle. C'est génial de se dire, on peut faire du business et être dans l'amour, on peut faire du business. Et être dans la relation, faire du business et créer des liens en particulier avec quelqu'un, c'est.
Ça ne veut pas dire que tout le business est comme ça et que les gens
Eh bien sûr.
et que tout le monde se comporte comme ça. Hein. Mais
Mais c'est-à-dire que c'est possible, c'est ça que je suis en train de dire.
en tout cas, c'est à la fois possible et souhaitable. Et de toute façon, d'une certaine façon, je ne sais pas faire autrement. Tu
Et
vois, et
donc,
c'est
t'as
ça, et
conscience.
c'est ce qui me donne de l'énergie. Et ce qui me donne de l'énergie, peut-être comme peu de gens, en fait. Tu vois, parce que je suis profondément en accord avec moi-même quand je fais ça. Tu vois, je suis bien, quoi. Tu vois, je suis confortable, je mens pas, quoi. Tu vois, d'ailleurs, je ne sais pas mentir, ce qui peut être un frein dans le business aussi, hein, parce que c'est pas forcément comme ça que tu gagnes toujours, quoi.
Mais sur le long terme, en tout cas, tu crées des
En tout
relations de.
voilà, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai envie de vivre. C'est comme ça que j'ai envie de vivre, c'est comme ça que j'ai envie de créer, c'est comme ça. J'imagine pas de faire autrement. Donc je continuerai.
C'est quoi l'anecdote que tu allais raconter par rapport à la télé?
Quand j'étais à New York et qu'on. En fait, on venait de rentrer chez Apple, donc c'est 5 semaines après. On ouvre, enfin les magasins Apple commencent à intégrer notre produit, etc.
On est en quelle année là?
Donc là, on est en 2015, on est fin 2015.
D'accord.
Et là, j'ai un journaliste qui m'appelle et qui me dit ah tiens, j'aimerais bien vous voir. Est-ce que vous venez aux États-Unis? Ben non, je suis à New York. Ah ben c'est formidable. Est-ce qu'on peut se voir demain matin? Ah ben oui, très bien. Demain matin, je sais pas, 8h30 au NYSE, au New York Stock Exchange. On a nos bureaux là-bas. OK. Et j'arrive là-bas. Donc c'est très sécurisé, l'entrée. Voilà. Donc il passe des barrages, on filtre tout. Enfin. Et j'arrive sur le floor là. Donc c'est les images qu'on voit toujours du New York Stock Exchange. Et là, il y a quelqu'un qui me dit, venez, on va au maquillage. Et 10 minutes après, je suis avec 5 journalistes en direct sur CNBC. voilà. Et
Là, tu te sens comment intérieurement?
Mais en fait, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, en fait, sauf qu'il faut aller très vite. Mais il faut, au fond, c'est. T'es là pour donner, quoi. Tu vois, c'est-à-dire, tu. C'est pas moi, en fait. Tu vois, c'est-à-dire, c'est pas. Ils s'en foutent de Quentin Saignet. Tu vois, ce qui l'intéresse, c'est cette boîte qui rentre chez Apple, qui a ce produit, qui est un. Tu vois, donc c'est pas. Donc il faut faire le job. Et il faut être. Il faut apporter beaucoup. Il faut que ça soit. Il faut que ça soit. Qu'ils soient contents de m'avoir invité. Il faut que les gens qui regardent aient quelque chose d'intéressant.
Et comment tu sais. Parce que je vois des gens qui pourraient se dire, mais oulala, moi je suis passé à la télé. Comment je sais ce qui va apporter de la valeur
Sois toi-même. Non, mais ce que je veux dire, c'est soit.
Sois toi-même.
Voilà, sois généreux et sois toi-même.
Et ton anglais à ce moment-là, il était comment?
Non, mais mon anglais était. Il était bien, enfin suffisamment pour que je comprenne les questions, que je sois capable d'apporter des réponses. Voilà, mais bon, à ce moment-là, tu l'éprouves, ton anglais et tout le reste, quoi. Donc, voilà, donc c'était saut dans le grand bain. Mais c'est des moments excitants parce que quand tu as fait ça et que tu sors de là, tu dis waouh. Et forcément, au-delà de la personne qui a fait ça et qui est le patron de Vialet, et qui, voilà, c'est quand même toi qui l'as fait finalement. tu vois ce que je veux dire? C'est t'en tires tous les bénéfices. Même si c'est pas. Ils m'ont pas invité moi parce que j'étais intéressant. Ils m'ont invité moi pour ce que
de Vialet fait.
Et de Vialet, c'est pas que moi, c'est aussi toutes les équipes, tous les gens qui développent la boîte. Donc, mais à un moment, tu te dis waouh, je l'ai fait quoi. Et non pas pour, tu vois, la gloriole ou ta vanité, ça peut.
Pour toi.
Mais voilà, pour toi, quoi. C'est des moments agréables, quoi. Le vol du retour, le 23 octobre 2015, pareil, quand on venait de rentrer chez Apple, après ce rendez-vous avec Angela, et que j'étais dans l'avion.
T'es seul,
le soir. Ouais, c'était le soir de mon anniversaire, en fait. Et donc. D'ailleurs, elle m'avait dit il faut que demain, travailler avec les équipes, tout ça, etc. C'est quoi votre projet? J'ai dit je rentre à Paris, c'est mon anniversaire. Elle m'a dit OK, rentrez, on s'occupe de tout.
Et c'était. Tu te sentais comment dans l'avion?
Bien, quoi. Non, mais tu te sens fort, quoi. Tu te sens. Tu es heureux de ce que.
Tu viens de faire.
Ouais, voilà. Tu.
T'aurais imaginé un jour faire ça, petit?
Ouais.
Ouais. Tu le sentais en toi.
Ouais. J'avais besoin de ça, en fait. Tu vois, de faire des choses comme ça.
Tu savais que ça serait le monde, ça serait l'échelle mondiale? C'est ce que tu voulais?
J'avais un besoin de me sentir héroïque d'une certaine façon. Tu vois, même de ouais, je pense. Ouais,
C'est qui tes mentors, tes sources d'inspiration?
C'est Moi, je suis très. Je me passionne pour l'histoire beaucoup.
Ouais.
Donc je me suis beaucoup intéressé à l'histoire contemporaine.
Ok.
Et en particulier à la période qui va des années, la fin du 19e siècle. Jusqu'à la décolonisation, en fait. Donc, c'est une période d'une violence, d'une destruction absolue et d'arriver à comprendre comment on a été capable de s'affronter en Europe
à ce point-là,
et de générer 20 millions de morts, plus tout ce qui s'est passé autour, hein, la révolution russe. La grippe espagnole, enfin voilà, donc c'est 50 millions de morts. C'est un massacre absolu. Et recommencer 20 ans après. Enfin, 20 ans après. Enfin, c'est...
Et toi, t'en retires quoi personnellement de ces recherches?
C'est-à-dire, à la fois, ça te fait croire énormément en l'homme. Parce qu'il y a dans tous ces chaos des gens absolument admirables.
Tu as été des personnes qui t'ont marqué?
Non, mais non, mais ça va de Churchill à des héros du ghetto de Varsovie. Enfin, tu vois, c'est aussi des gens, des justes qui sauvent des vies. Tu vois, c'est des milliers de courages rassemblés, si tu veux. Et en même temps, de l'ignominie, le pire. Voilà. Et je pense qu'on est capable, chez chacun d'entre nous, de mobiliser le meilleur et le pire à tout moment, en fait. Tu vois. Et donc, je pense qu'il faut faire des choix. Il faut faire des choix, et y compris sur le plan, tu vois, sur le plan politique, sur le plan intellectuel. On peut en permanence faire appel au plus bas instinct des gens. Tu vois, c'est... voilà, j'ai... Si on provoque chacun d'entre nous, on peut être poussé tout le temps à rejeter les autres, à haïr ceux qui sont plus grands, ceux qui sont plus blonds, ceux qui sont plus noirs, ceux qui sont plus petits, ceux qui sont... qui parle pas ta langue, ceux qui se réveillent trop tôt le matin, ceux qui se couchent trop tard le soir. Enfin voilà, ceux qui ont trois gosses, ceux qui ont deux gosses, ceux qui ont pas de gosses, ceux qui sont homo, ceux qui ne le sont pas. Tu vois, on peut en permanence être dans la haine de ça, quoi. Tu vois, aller vers les autres et accepter l'autre tel qu'il est, avec ses choix différents, ses étrangetés de ton point de vue, ça fait partie de nous, mais c'est aussi... moi, mes héros sont plutôt du côté de Diderot, au sens de la croyance d'un homme qui se polit, qui se construit dans la société, et plutôt que de Rousseau, d'un homme qui naît naturellement bon et qui est plutôt perverti par la société. Je pense que...
On peut se bâtir.
On peut se bâtir et que... et en fait, c'est une volonté, si tu veux, qu'on doit avoir.
C'est-à-dire que c'est un choix,
voilà,
conscient.
Volontaire. Donc
on peut choisir de ne pas le faire.
Voilà, on peut choisir de ne pas le faire. On peut choisir d'être dans la haine. On peut choisir de voilà. Et on peut choisir de voilà. Tu peux rentrer dans tu vois, tu peux rentrer dans une boutique, tu peux rentrer dans le métro avec une volonté qui est de que la première personne qui arrive et qui te paraît fragile ou machin, de te lever, de donner la place. Mais qui est récompensé? Ben, c'est toi. Je suis pas du tout religieux ou quoi que ce soit. C'est pas ça. C'est juste une bonté humaine, quoi. Tu vas te se dire, au fond, qu'est-ce qui pourrait, à ce moment-là, tu vois, tu es dans le métro, c'est pas passionnant, c'est pas un endroit magnifique, etc. Comment tu transformes un moment comme ça en quelque
magique.
Chose, quoi. Tu vois, bah, allez-y, asseyez-vous. De toute façon, je descends à la prochaine, même si c'est pas vrai, quoi. Peu importe. Mais toi, tu vois, et c'est vrai, tu rentres chez un commerçant et tu vas plutôt être joyeux, se marrer, tu vois, avoir un mot pour quelqu'un, remercier, tu vois, enfin c'est...
Je trouve ça hyper important, hyper intéressant. Comment dans la position d'entrepreneur, qui demande des fois de faire des choix qui ne vont pas forcément être appréciés ou compris par tous, comment tu donnes de la place à cette bonté, cet amour, quand par exemple, je ne sais pas, il faut
licencier par exemple,
faire des choix stratégiques, trouver cet équilibre en fait en se disant tiens, ça paraît peut-être moins bien, mais ça me semble plus juste.
Non, mais par exemple, moi j'ai jamais hésité, enfin, ou plutôt quand j'ai hésité à licencier, ça a toujours été une erreur. C'est toujours des mauvaises raisons en fait, de garder les gens alors que ça ne se passe pas bien. Moi, mon principe c'est on n'abîme pas les gens. C'est ça le principe de base. Donc, c'est plus important que de respecter la loi dans la façon dont on va licencier les gens. Il faut faire un entretien préalable dans lequel on va expliquer que ça ne se passe pas très bien, etc. Mais c'est un mensonge, en fait. En général, quand tu reçois les gens comme ça, c'est que déjà, tu les as pas convoqués à un entretien. Mais plusieurs fois, il s'est passé que tu as dit que les choses n'allaient pas. Et donc, dans ces cas-là, je pense qu'il ne faut pas mentir. Tu vois, quand tu commences à faire un entretien comme ça, qui est en fait bidon, dans lequel tu envoies une lettre à quelqu'un où tu vas l'appeler monsieur, tu vas le vouvoyer alors que tu le tutoies tous les jours. Ah mais oui, mais attention, parce que si tu le tutoies et tu appelles par son prénom, si ça arrive au prud'homme…
Et comment tu gères cet aspect-là?
Mais ça veut dire que tu construis les choses pour ne pas aller au prud'homme, mais tu y vas tout droit. Non mais tu vois, c'est… Moi, j'ai licencié des dizaines et des dizaines de personnes dans ma vie. Je n'ai jamais eu une personne qui m'a emmené au prud'homme. Parce que mon principe, ça a toujours été de dire, voilà, il faut faire attention aux gens. Et tu te rends compte que je dois signer un appartement la semaine prochaine. Donc, on va prendre en compte cet aspect-là. Pour être capable de, tu vois, parce que je vais avoir un enfant, tu vois, et si tu licences, enfin, si tu dis j'en ai rien à foutre, je vais, l'important c'est qu'on suive la loi et à la fin je t'emmerde, tu crées des conditions de conflit, de mal-être, et les gens le portent avec eux, quoi. Toi, tu peux considérer que tu t'en fous, mais ils vont les porter longtemps avec eux. Or, voilà, il ne faut pas laisser des traces derrière, tu vois, c'est… Comme tu vas faire un pique-nique, tu ramènes tes ordures, quoi.
Donc tu préfères avoir une vraie conversation, se dire les choses. Ouais. Tant pis pour ce que dit, entre guillemets, la loi à ce niveau-là. Tu préfères l'humain en premier.
Voilà. Et la réalité, c'est que si tu fais ça…
C'est que ça ne va pas dans le…
Ça va marcher. Ça va bien se passer. La personne va partir dans des bonnes conditions. Se sentira finalement mieux de partir que de rester parce que ça ne se… Les gens sont conscients hein, quand ça ne se passe pas bien.
Tu avais beaucoup de rôle de management ou pas au sein de Viollet?
Ça dépendait des périodes. Ouais. En fait, j'ai toujours eu un rôle de management. Dans la dernière période, moi j'avais un directeur général délégué, donc il gérait beaucoup de choses. Et moi j'avais moins un rôle de management, enfin, sauf d'animation de la boîte sur le plan stratégique, de la vision, etc. Un peu moins du management au quotidien, quoi. J'étais aussi beaucoup en déplacement.
On en parlait hors caméra de ta transition. Ça a été comment, là, tu disais, t'as un peu arrêté, là, comme ça, du coup, tu t'es plus en train de t'investir dans Viollet. Aujourd'hui, ça a été comment la transition d'une vie pendant plusieurs années, pendant 10 ans à fond, à voyager dans tous les sens, tous les pays Ah, d'un coup, hop, ça s'arrête. Ça a été comment, en fait, ça
20 km de marche, le jour où je suis parti.
Où ça
À Paris, ouais. Dans la rue, c'était au planif. Soleil, et puis le plaisir de goûter de l'instant. En fait, quand tu as une vie trépidante, tu finis par croire que tu n'es pas capable de vivre dans l'instant. Et c'est important de vivre dans l'instant, de vivre l'instant, de vivre, d'être là.
Et d'être là. Contempler.
Voilà. Contempler, d'apprécier le moment, d'apprécier les gens avec qui tu es, etc.
Tu penses que c'est possible? Parce que le schéma que tu décris, je le vois beaucoup dans mes interviews, c'est-à-dire à fond, à fond, à fond, à fond, à fond, par Marc Simoncini comme ça, à fond, à fond, à fond, et hop, pause et j'apprécie plus le moment. Est-ce que tu penses que c'est possible d'amener des boîtes à ces niveaux-là, comme Viollet ou ce qu'a fait Marc avec Mythique, en mettant cette idée du moment présent pendant la croissance. Je le vois quasiment pas.
Il faut les. C'est compliqué, ouais. C'est compliqué. En tout cas, le plaisir que tu as quand tu t'arrêtes comme ça, c'est de te rendre compte que tu en es capable, en fait. Parce qu'en fait, c'est une. Tu vois, une inquiétude, c'est d'être complètement névrosé, d'être obligé, en fait, d'être dans cet état d'agitation pour être capable de vivre, en fait, de supporter la vie. Et en fait, tu te rends compte que ce n'est pas le cas. Donc, ça te rassure sur toi-même, tu vois, sur ton état psychique, sur le fait que tu sois capable et de vivre l'un et de vivre l'autre, quoi.
Tu bossais combien de temps là, par
semaine? En fait, tu... Moi, je...
De violette, c'était
que je suis pas du genre à rentrer le soir à minuit ou... Parce que j'avais pas forcément de tâches très...
Opérationnelles?
J'avais des tâches opérationnelles, mais pas forcément tant que ça. Et puis, au fond, je travaillais, je vais dire... 20 heures sur 24, au sens où je pensais tout le temps à ça. Mais voilà, j'essayais de dîner avec mes enfants, enfin quand j'étais à Paris, de dîner avec mes enfants, de...
T'as 4 enfants, c'est ça?
Ouais. De faire, en fait, quasiment que ça et de Vialet, enfin ma famille et de Vialet, quoi. Je pouvais pas faire grand chose d'autre, quoi. Donc de fait, tu travailles les premières années, je travaillais vraiment 7 jours sur 7. Voilà, les dernières années, je travaillais beaucoup, mais on était plus nombreux, 150, 250, 300, 400. Enfin, à ce moment-là, je travaillais plus loin, enfin où je réfléchissais ou des choses, mais pas opérationnellement, quoi.
T'as toujours des parts aujourd'hui chez Deviel, dans Deviel, ouais. Ça te fait quoi d'avoir ce bébé qui s'est développé, qui s'est créé, qui a son existence maintenant comme un enfant, qui est adulte maintenant? Est-ce que des fois tu penses que tu as envie d'avoir des news? C'est comment?
Je pense que c'est très différent d'un enfant.
Ouais.
Parce qu'un enfant, en fait, tu le crées. Tu participes à sa création pour qu'il t'échappe. Et au fond, moi, je me souviens à la naissance de mon premier enfant, ma première pensée, ça a été « tu partiras ». Et donc, c'est pas ça quand tu crées une boîte. Donc, pour moi, c'est très différent d'un enfant.
C'est quoi pour toi quand tu crées une boîte?
Et un enfant, tu le... Il va créer sa propre personnalité, qui est très différente de la tienne. Enfin, il faut que lui trouve sa propre... Enfin, lui, parce que j'ai 4 garçons, hein. Donc, je n'imagine pas qu'on puisse avoir des filles, mais... Donc, lui ou elle trouve sa propre personnalité, alors que la boîte que tu crées, d'une certaine façon, elle t'incarne, quoi. Elle est un reflet de toi. Donc, quand tu la quittes, c'est plus tellement ton sujet, en fait. Tu vois, c'est pas comme un enfant ou... Tu vois, dès lors, elle vit sa vie et ça ne... Voilà, c'est autre chose.
Mais on te sollicite encore pour des questions ou plus du tout?
Non.
Et toi, t'as pas...
Je le souhaite pas.
Ok.
Non, je le souhaite pas. Non, moi, comme tu vois, je suis assez entier et assez engagé dans les choses. Donc, soit je fais, et c'est moi qui fais, soit je fais pas, et je fais pas.
Et donc là, aujourd'hui, tu fais quoi?
Donc, aujourd'hui, je monte un nouveau projet.
Ouais.
Donc, je travaille sur des sujets liés à la biologie, au vivant. Des sujets liés au cerveau et des sujets liés à la biologie du sol,
okay.
À l'agriculture. Donc, je reviens dans mes...
Mon grand-père est agriculteur, donc voilà, j'aime bien ce sujet.
Voilà, donc on a une agriculture qui marche sur la tête, qui nourrit très mal ses paysans à l'échelle mondiale. Les paysans sont en train de dégommer la biodiversité. Et
t'aimerais créer quoi?
On bouffe de la merde, globalement. Donc... Je travaille à développer une agence internationale de surveillance et d'information sur l'état biologique du sol.
D'accord.
Voilà, donc c'est un peu tôt pour développer le sujet. Mais
ton rêve, c'est quoi en tout cas?
Mon rêve, c'est de construire un instrument qui oblige l'industrie agroalimentaire à se comporter comme une maison de verre par rapport à l'origine des produits, d'origine géographique et la façon dont on traite les sols dans, du fait de leur...
Donc pour aider les gens à transposer, si ce monde-là se réalisait, ça donnerait quoi pour le consommateur
Pour le consommateur, ça veut dire que sur chaque produit alimentaire, il sait exactement d'où ça vient et il connaît l'état biologique de la terre sur laquelle ce produit-là a poussé ou les composantes de ce produit alimentaire qu'il est en train de manger ou les vaches, enfin le pré sur lequel les vaches... voilà. C'est-à-dire d'avoir une vraie traçabilité.
Et t'imagines ça avec, vu que le mobile, ça prend de plus en plus de place, t'imagines ça avec de la technologie?
Oui, bien sûr, ouais. C'est de la technologie de surveillance des sols par satellite, par des techniques de mesure d'ADN, de biodiversité du sol. C'est de la technologie dans la blockchain sur la constitution de l'information et la garantie de son intégrité de bout en bout tout au long de la chaîne.
Comment tu utilises la blockchain là-dedans?
Tu l'utilises comme un élément de transfert d'une information certifiée d'un acteur à l'autre entre l'agriculteur.
Pour être sûr qu'il n'y ait pas d'information.
Le meunier, etc. Pour être sûr que l'information, elle est intègre, elle est vérifiable, elle est opposable au tiers, etc. etc.
Tu peux expliquer un peu le blockchain, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont entendu parler du Bitcoin, mais qui ont du mal à comprendre.
Mais je ne suis pas du tout un spécialiste du sujet.
D'accord.
Donc je suis en train de travailler avec des gens qui connaissent très très bien le sujet.
Qui sont
donc
experts là-dedans.
Je ne veux pas, je veux pas me lancer là-dedans.
En tout cas, c'est une technologie qui, toi, te permet de garantir l'intégrité de l'information.
Des protocoles. Moi, ce qui m'intéresse, après, ça s'appelle blockchain ou autrement, mais c'est des protocoles de systèmes d'information, de gestion de données, qui permettent faire circuler d'un agent à un autre une information certifiée et de la porter tout au long de la chaîne à un consommateur. Final, après le consommateur, il a des outils comme son smartphone, il peut scanner un produit, avoir une information comme il le fait avec Yuka aujourd'hui ou des choses comme ça. Mais sur l'état du vivant, en fait, l'état, parce qu'un sol biologiquement en bon état, c'est un sol qui délivre des aliments avec une meilleure qualité nutritionnelle.
Donc ça veut dire que si j'ai bien compris, on pourrait imaginer un monde demain où n'importe quel sol a des outils, des instruments de mesure pour avoir sa qualité, comment on dit, pas nutritif, mais sa qualité
biologique.
Son état biologique. Et que cette information-là, elle soit amenée jusqu'au consommateur au moment où il achète un produit.
Ouais.
Il soit capable de savoir que ce céréale qu'il est en train d'acheter, il avait à la base dans les sols telle propriété.
Elle était, en tout cas, une telle qualité.
Telle qualité.
Enfin, disons, elle est gradée sur... voilà.
Et donc, par exemple, ça pourrait être le cas pour du pain, ça pourrait être le cas pour tous les produits.
Après, tu peux le faire pour tous les produits. Et aujourd'hui, la technologie nous permet d'avoir accès à ça. Dans le domaine pharmaceutique, quand il y a un excipient pétrolier à l'intérieur d'un médicament, on sait de quel puits de pétrole du Golfe de Guinée ça vient, quoi. On le sait, on le trace dans l'aéronautique, on trace des produits, on sait le minerai, de quel mine il vient, etc. Donc il y a plein de domaines dans lesquels on est capable de développer cette traçabilité. L'alimentaire ou le bâtiment d'ailleurs, les matériaux qui rentrent dans la fabrication des bâtiments, c'est des domaines dans lesquels ça n'existe pas. Très peu. Enfin, il y a la viande, maintenant, on est capable de tracer de quel animal ça vient, etc. Mais ça doit absolument se développer parce que les gens n'ont pas confiance dans l'alimentation. Les gens, on est en train de détruire 30% des terres aujourd'hui sont dans un état épouvantable. La Chine a perdu 180 000 km² de terres arables au cours des 30 dernières années. Hein, c'est les deux tiers de la surface cultivée en France. La perdu, et la France est un grand état agricole. Donc la Chine a quasiment perdu sa France en production depuis 30 ans. Quoi.
Et, ce qui est rien à l'échelle de l'humanité.
Oui, mais aujourd'hui...
C'est-à-dire ce qui est rien 30 ans, ça va...
C'est rien 30 ans, exactement. Et après, voilà, tout le monde s'intéresse à l'Afrique. L'Afrique, c'est 60% du potentiel de terres agricoles dans le monde. Mmh. C'est absolument incroyable. Voilà, il faut s'assurer que ça ne soit pas un désastre, quoi.
Et pour toi, est-ce que tu penses que ton focus, ça peut être d'abord, en premier l'Afrique, de se dire, vu qu'on part de zéro?
Alors, mon focus premier, ça, je pense que ça sera l'Europe.
D'accord.
Parce qu'en Europe, on a des enfin, je pense à l'Union en particulier. On a des institutions qui sont en train de se réformer, la politique agricole commune, etc. Et je pense qu'il y a une opportunité grande que ce type d'instrument de mesure de l'état biologique des sols devienne des outils majeurs de la politique agricole commune. Donc je pense qu'il y a une vraie opportunité à la fois économique, politique et écologique en Europe. Mais l'enjeu majeur, c'est l'Afrique. C'est un continent que je connais très très mal et j'aimerais énormément qu'on fasse des choses très très vite en Afrique, quoi.
Et juste pour bien comprendre, ça veut dire que dans l'entreprise ferait deux choses, créer les instruments et les vendre et organiser le label qui permet de créditer l'information, c'est ça?
Alors, c'est pas tout à fait un label.
C'est le mot qui m'est venu.
Ouais, non, mais je comprends. En fait, c'est vraiment comme une agence de notation financière. Donc, donc elle distribue pas vraiment un label, elle donne une note. C'est un triple A, t'as un BB, t'as un C, t'as un D, enfin voilà, t'as vraiment une note. Donc ça, c'est un aspect. Et la deuxième chose, c'est effectivement tous les outils de la traçabilité. Aujourd'hui, je ne sais pas exactement ce que moi, je vais proposer.
D'accord.
C'est-à-dire, en fait, donc je travaille sur différents aspects, y compris des recherches sur l'impact de l'état biologique du sol sur la valeur nutritionnelle des aliments. Donc je travaille sur ces sujets-là pour pour voir exactement à quel endroit il y a un chaînon, qui est un chaînon que j'ai envie de saisir moi.
D'accord.
Le truc qui peut vraiment changer le système. Il y a des gens qui travaillent
sur des parties en fait.
Ouais, aujourd'hui il y a des gens qui travaillent par exemple sur la traçabilité, sur la transparence des productions agricoles et qui ont développé des choses intéressantes.
Donc l'idée, ce n'est pas de créer toute la chaîne toi-même, c'est te relier.
C'est un projet gigantesque.
Et c'est ça qui te plaît ou pas, ce truc un peu mondial
Ouais, moi ça me... Moi, je suis un humaniste. J'ai une conscience universelle. Enfin, je suis.
Il n'y a pas de frontières.
Non, mais je suis né sur cette terre et enfin sur cette terre ici, quoi. Mais au fond, tu vois, les notions de pays, autant les notions de culture, tu vois, de langue, de culture aussi.
Local.
Du sol, de culinaire, etc. Tout ça, c'est je mesure bien tout l'intérêt de cette biodiversité aussi humaine. Autant je me sens un citoyen du monde, quoi. Enfin, j'aime.
Et oui, il n'y a pas de frontière dans ta tête.
Pas vraiment, en fait. Et j'ai plutôt. Il y a 5 siècles, 6 siècles, tu vois, un Berrichon et un Normand étaient deux étrangers. Dans mon village, voire étaient dans des états différents. Un dépendant de la couronne d'Angleterre et l'autre du roi de Bourgogne, tu vois. Éventuellement se battaient. Dans mon village en Normandie, il y a 30 ans ou 40 ans, les gens n'avaient pas de voiture. Et eux, quand ils désignent un village où il y a 300 habitants, ils appellent ça un pays. Et ils ont, tu vois, le pays d'à côté, c'était autre chose, quoi. Donc, si le résultat du fait qu'on voyage partout dans le monde, qu'on s'ouvre aux autres, etc., ou en tout cas qu'on soit connecté tous les jours à l'humanité entière, nous ouvre pas sur ce qui constitue notre humanité commune, tout cela est bien vain, quoi.
C'est clair.
Donc, Donc voilà, après, on a la chance de vivre dans un pays incroyablement fertile en idées, en talents, en qualité de vie, voilà, et que les gens qui s'habillent en jaune se parcourent le monde et ils vont comprendre, quoi. Que voilà, que autour d'eux,
On est dans le luxe.
oui, même les plus fragiles ici, on leur accorde une attention qui est sans doute pas suffisante, mais incommensurablement supérieure à la violence de ce qu'on peut voir partout, quoi. Je ne m'en satisfais pas, au contraire. Mais soyons réalistes, qu'on a un système qui les uns et les autres nous protège beaucoup par rapport à ce qui peut exister ailleurs, quoi.
C'est clair. Merci Quentin, en tout cas,
Merci.
c'était vraiment,
Merci beaucoup.
j'ai kiffé.
Non, je pense que, sans flagornerie, je pense que c'est important ce que tu fais, en fait. Il ne s'agit pas de faire croire aux gens, on n'a peut-être pas dit assez ça, que c'était brutal, que c'est un long fleuve tranquille et que peace and love, ça va bien se passer. Mais en tout cas, je pense que même là-dedans, tu peux garder ton intégrité, quoi. Tu peux te comporter bien et au fond laisser les autres éventuellement se conduire comme des sagouins. Tu vois, c'est pas. Je pense que c'est un espace de jeu dans lequel on peut se conduire bien et se voilà. Et aussi s'amuser. On n'a peut-être pas assez parlé de. Non, mais tu vois, c'est excitant. C'est aussi des choses. C'est aussi léger, tu vois. On a peut-être été un peu sérieux, mais c'est aussi léger. Il faut y aller pour s'amuser, il faut y aller pour construire sa vie, il faut y aller pour.
J'aurais largement plein d'autres questions que je voulais te
Ouais,
poser. C'est
non, mais on pourrait.
juste une question de timing, mais je serais très heureux qu'on fasse une deuxième version, hein.
Après, quand j'aurai. Non, ça s'appelle Symbiotopie, ce que je suis en train de faire. Et c'est un beau projet. En fait, c'est un projet que j'ai pris très, très globalement et qui est très, très compliqué.
Et ben, je serais heureux qu'on dédie
Et en
plus de temps
fait,
à ça.
voilà. Et là, je suis en train de, tu vois, je suis en train de focusser, si on de me rendre compte qu'il y a des sujets sur lesquels, en fait, il y a des gens qui travaillent, qui sont déjà très avancés. Et en fait, je me rends compte du point, en fait, où il y a vraiment un manque criant. Et voilà. Mais l'idée, c'est vraiment la maison de verre, quoi. Tu vois, c'est-à-dire construire par la vertu, en fait. Et quand tu fais ça, elle a une puissance. Si tu veux, c'est comme. Tu vois, si quelqu'un met la composition du produit, tu prends deux confitures d'abricot, il y en a un qui te dit fruits tant, pectine de citron, machin, et l'autre, il te dit pas. Tu vas te dire pourquoi celui qui me dit pas me dit pas, quoi.
Non, mais genre, ça peut vraiment, en plus, c'est ça qui est génial, devenir un outil commercial pour les
Ouais,
entreprises qui vont jouer le jeu.
bien sûr. Et t'as le textile.
Et surtout qu'on rentre dans une ère où on est de plus en plus dans la transparence, où les gens veulent de la transparence. Donc, et les technologies le permettent de plus en plus.
Exactement. Et t'as le textile. Tu vois, tous les produits textiles qui viennent de la terre. Voilà, le lin, le coton, la laine, voilà. Mais le caoutchouc de nos pneus, hein. Donc j'en parlais avec le patron de Michelin, par exemple, disant, voilà, les cultures de caoutchouc, c'est des vrais problèmes écologiques. Et tu peux imaginer d'appliquer ça à plein de domaines.
C'était pour une question de timing, j'ai pas voulu te poser la question tout à l'heure, mais je te la pose là du coup, qu'on continue d'en parler. Est-ce que tu penses que tu peux avoir des lobbies contre
Y en
toi pour.
a. Ah, mais j'ai déjà affronté quelques phénomènes, ouais.
Ça te fait peur ou pas?
Non. Enfin, la peur, c'est pas tellement mon registre.
C'est bon comme phrase.
Non, mais c'est. Non, le. Non, je sais pas.
Tu vas et on verra bien.
Ouais. Écoute. Tu sais, c'est. Tout peut s'arrêter dans une minute.
Tu parles de la vie, hein?
Ouais, tu parles de la vie, ouais. Et donc, tu gardes quoi de ta dernière minute, quoi? Ton sourire, moi, ça me. Non, mais tu vois, non, mais tu vois, c'est que tu gardes quoi de la dernière minute de ta vie, quoi? Tu vois, Voilà.
Moi, je garde en tout cas une vraie profonde interview.
Merci.
Sincèrement, on me demande souvent, c'est quoi. On m'a encore demandé, j'étais interviewé hier, on m'a demandé c'est quoi dans tes top interviews. Je ne sais pas, ça va te flatter, hein. Mais j'ai répondu que c'est difficile parce que ça dépend des moments de ma vie et que j'en ai pas une en particulier. Mais en tout cas, dans ma période d'actuelle, c'est mon interview favorite.
Si tu as aimé ce podcast et ce type de contenu avec des entrepreneurs au parcours incroyable, alors j'ai une bonne nouvelle pour toi, on a créé une vidéo qui recense les 6 clés indispensables pour scaler ton business.
Donc aujourd'hui, j'ai développé tout un set de techniques pour aider les entrepreneurs que j'accompagne à bien sûr garder la foi, conserver cet optimisme de « je vais y arriver, je peux le faire, j'y crois », mais en même temps, être capable de manière ce qu'on pourrait appeler un pragmatisme pessimiste ou le pessimiste pragmatique, c'est-à-dire voir les obstacles et les anticiper de manière le plus calme, centrée et stratégique possible. Charlie Munger a ce qu'il appelle la technique de l'inversion. La technique de l'inversion, c'est de faire presque contre-intuitivement l'opposé que de visualiser que ça va bien se passer.
Si tu veux découvrir ces 6 clés contre-intuitives qui vont te permettre de booster ton business, regarde la vidéo gratuitement en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode.